Une des catéchistes qui m'a demandé, elle m'a dit, il faut vraiment que vous rappeliez aux enfants que la Toussaint n'est pas la fête des morts. Alors, moi la confusion ne me gêne pas parce qu'il faut même d'abord être mort avant d'être saint. Ou du moins, c'est après la mort qu'est déclarée la sainteté. Mais j'aime tellement mes catéchistes que je fais tout ce qu'elles me demandent et j'ai répondu à ce souhait. J'en ai même rajouté, j'ai dit aux enfants que c'était pas seulement la fête de tous les saints, mais de la Vierge Marie et de tous les saints. La Vierge Marie, la Reine du Ciel. Marie, première en chemin, comme nous l'avions chanté avec les enfants, modèle de sainteté. Ce sont les trois grandes fêtes chrétiennes, d'ailleurs, de l'espérance qu'il faut garder en tête. L'ascension du Christ qui nous ouvre les cieux. L'assomption de la Vierge Marie, le 15 août, qui nous rappelle toujours que nous pouvons entrer en douceur dans l'éternité. Et puis aujourd'hui, la Toussaint. Autant les deux premières fêtes sont des montées au ciel, du Christ puis de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voici avec tous les saints et les saintes, quasiment de plein pied dans le paradis. Et je me suis dit, j'allais donc vous donner une description du paradis. Quand j'en ai parlé à mon papa, qui m'a demandé sur quoi tu travailles, j'ai dit, je travaille sur une description du paradis. Il m'a dit, tu vas faire une projection de photos. Ne disons pas trop vite que nous ne savons rien du paradis. Nous savons un certain nombre de choses révélées par l'Écriture, que l'on peut discerner et porter par la tradition. Nous savons d'abord qu'il est peuplé, abondamment peuplé, qu'on y sera, si on y va, si on a envie d'y aller, très nombreux, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Voilà ce qui est dit la première lecture de ce jour. C'est un grand motif de joie, d'espérance, également d'inquiétude. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver ceux qu'on aime ? Comment est-ce qu'on va se débrouiller dans toute cette foule? Et puis, comment on va faire pour se sentir à l'aise? Tout le monde n'aime pas beaucoup la foule. Est-ce qu'on ne sera pas un peu trop serré les uns contre les autres, comprimé? Comment ça va se passer? Comment on va faire pour ne pas étouffer? Pour ne pas avoir ce sentiment d'oppression qu'on peut ressentir dans une foule? Eh bien, s'il y a un sentiment qui est absent de toutes les visions, de tous les textes bibliques, c'est celui d'oppression. Et c'est pourquoi nous parlons du ciel, d'aller au ciel, parce que ce sera aérien et aéré. Il y a ce tableau des anges qui se tiennent en cercle autour du trône, qui se prosternent pour adorer Dieu. On ne sera pas serrés les uns contre les autres comme les rangées des cimetières. On ne sera pas non plus en vrac. Ça sera ordonné, mais sans excès. Voilà, une promesse. Pas d'oppression au paradis. Ouf! Ce sentiment paisible et heureux, sera d'autant plus fort que nous vivrons pleinement cette expérience qui est une des plus fortes et une des plus importantes de notre vie quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le sentiment de l'avoir toujours connu. Beaucoup d'entre vous, je vous souhaite à tous de le vivre. Par exemple, quand on tombe amoureux, mais pas seulement, dans certains liens très forts, dans certaines affinités, des liens d'amitié. On rencontre quelqu'un, mais il y a quelque chose de, on va dire, magique, quelque chose de magnifique. C'est comme si on s'était toujours connu. C'est comme ça que nous vivrons, on sera immédiatement à l'aise. La possibilité d'être enfin pleinement soi-même, d'être les uns avec les autres, plus qu'en famille, avec une vraie relation plus que d'amitié, d'amour. Comme si on s'était toujours connu. C'est le principe de l'éternité, ça n'a ni début ni fin. Et on n'aura pas de difficultés. Je veux vous rassurer, j'ai rassuré d'abord tous ceux qui étaient un peu agoraphobes ou claustrophobes. On ne sera pas serré. Il faut rassurer aussi tous ceux qui sont un peu timides ou coincés. On n'aura pas de difficultés à entrer en relation les uns avec les autres, à se parler, à converser, à s'écouter, à s'entendre, à se parler. C'est comme si on s'était quitté la veille, avec l'avantage qu'on pourra parler sans avoir de problème de mondanité, d'hypocrisie, de franchise excessive. Quelque chose, vraiment, c'est ce que disent les sacrements, de l'ordre de l'onction. La deuxième caractéristique du paradis, après le caractère aérien, c'est la fluidité. Fluide, facile. Comme une évidence. On sera comme des anges, dit Jésus dans l'Évangile, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de corps, mais que nos corps, le corps ressuscité, ne sera plus Le corps ne sera plus une entrave, un obstacle. Parce que la troisième inquiétude, qui concerne justement notre corps et la résurrection, l'idée même de résurrection, c'est de savoir quelle place aura notre corps, on ne veut pas dire quelle forme, on ne veut pas dire encore quel âge. Si nous ne pouvons pas l'imaginer, ce que l'Église enseigne, c'est qu'il sera enfin en harmonie avec notre âme et notre esprit. Concrètement, on n'aura plus à gérer, comme aujourd'hui, quotidiennement, toutes sortes de besoins, de désirs, de souffrances, toutes sortes de pulsions, de motions intérieures. Nos mouvements intérieurs seront une éternité de délices. Nos désirs ne seront plus des tyrans. Ce seront nos enfants chéris. S'il fallait une comparaison, c'est comme pour les fêtes de famille, pour les baptêmes, tiens, que je célèbre à la chapelle. Quand je célèbre un baptême à la chapelle, il y a souvent beaucoup d'enfants présents. Ça peut être une grande joie ou un cauchemar. C'est vrai dans toutes les fêtes de famille. Mais parfois, et alors c'est vraiment heureux, parfois ce sont des anges. C'est bien plus que bien élevé. C'est totalement présent, fasciné. Au paradis, nos désirs seront comme des anges. Des enfants délicieux, obéissants. Notre corps ressuscité se laissera totalement conduire par notre esprit sanctifié. Cela m'amène à la quatrième, la plus grande inquiétude sur le paradis, dans son éternité. Vous connaissez la question, est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas s'ennuyer? Cette question vient de personnes qui n'ont probablement jamais connu la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour quand la présence de l'être aimé suffit. Quand la présence de l'être aimé suffit pour nous combler. La vision du Christ, la présence du Christ à la droite du Père, sera inséparable du mystère même de la Trinité, c'est-à-dire la totalité de la vie dans l'Esprit. Et la vie dans l'Esprit, c'est quoi? C'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas une question de monotonie dans l'uniformité. C'est une diversité infinie, une richesse inépuisable, dans l'unité, dans l'harmonie. Nous découvrirons éternellement dans son caractère inépuisable ce que Saint Paul appelle la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Vous serez comblés une fois que vous serez entrés dans la plénitude de Dieu. Au paradis, nous ne cesserons de découvrir non seulement la diversité, la richesse, mais la beauté de Dieu. Le paradis, c'est une harmonie, y compris, ou d'abord sur un plan esthétique. Le pape Jean-Paul II, dans une lettre aux artistes, leur disait, vous les créateurs, vous les artistes, vous pouvez ressentir quelque chose de l'émotion de Dieu quand il a créé le monde. Dans le geste créateur, il y a quelque chose de cela, de cette joie. Mais les artistes ont également pour mission de nous laisser entrevoir quelque chose de la beauté de Dieu, de la beauté du paradis, de la beauté de l'amour dans sa plénitude. Parce qu'il est divin, le paradis, enfin, c'est un royaume de douceur. C'est le cinquième trait qui ressort de l'Écriture. C'est la façon dont la Bible parle de la terre promise comme d'un pays de lait et de miel. C'est la façon dont Jésus dit « Je suis doux, venez à moi, vous qui peinez, vous qui souffrez, vous qui trouvez que la vie est dure, venez à moi, car je suis doux. Je suis l'homme de douceur. Je suis doux et humble de cœur. Heureux les doux! Heureux les doux, car ils auront la terre, ils auront la promesse de la vie éternelle. » Après la deuxième béatitude qui dit « Heureux ceux qui pleurent », qui fait référence à tout ce que nous avons à souffrir, y compris le passage de la mort, « Heureux les doux ». La première impression quand on arrivera et la certitude qu'on sera au paradis, ce sera la douceur, la présence du Seigneur dans sa gloire qui enlèvera toute larme, tout conflit. Voilà cette promesse qui nous est faite. Voilà la promesse qui devrait dissiper toutes nos inquiétudes, qui devrait surtout faire grandir en nous l'envie. Avez-vous vraiment envie d'aller au paradis? Alors on dit, mais comment faire? Il y a une condition, une seule condition nécessaire, c'est d'en avoir le désir. C'est d'avoir envie d'aller au paradis. Et comment ne pourrions-nous pas avoir ce désir d'être toujours avec le Christ Jésus, dans ce royaume aérien et aéré, ce lieu fluide où chacun sera heureux de parler, de découvrir les autres, de vivre dans un corps ressuscité où nous n'aurons plus aucune contradiction ni contrariété. L'émerveillement et la découverte sans fin, c'est le principe des mystères chrétiens, l'approfondissement infini et heureux. Nous saurons enfin pourquoi Dieu nous a créés. Nous verrons Dieu de nos yeux de bienheureux. Joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu.